Bonjour, bonjour à toutes, mesdames. C'est parti pour notre étude du jeudi matin. Corona oblige, nous ne sommes pas dans la même pièce, mais le cœur y est et on continue notre étude ensemble. On ne va pas laisser un petit virus nous empêcher d'étudier la Torah. Donc, c'est parti. C'est parti. Et donc, eh bien, on est toujours, on a dit, alors, aujourd'hui, ce matin, on va avoir deux études en parallèle. Nous allons commencer par notre étude classique sur la Tfila. Et ensuite, eh bien, on dira quand même un petit mot. On commencera, et jeudi, aujourd'hui et la semaine prochaine, on commencera à dire des petits mots sur Pessah. D'accord ? Histoire que là où vous serez, eh bien, vous ayez de quoi raconter pendant le soir du Seder. Alors, on va d'abord revenir à notre Tfila. Et nous sommes arrivés. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse, nous sommes arrivés à Vela Malchinim. Voilà, exactement. On a étudié la dimension de Mishpat, à Shiva Shoftenu, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et donc maintenant, eh bien, nous arrivons à la bracha de la Malchinim. Alors, cette bracha est très particulière. Cette bracha est très particulière par rapport à toutes les autres, tout simplement parce qu'elle vient après. Eh oui. Vous vous rappelez, au tout début de notre étude sur la Tefila, eh bien, on a expliqué qu'il y a une condition sine qua non pour pouvoir prier. On avait dit que c'était d'être prophète. Et on avait expliqué que la Tefila, la Shemona Esrei, avait été mise en place par les derniers prophètes dans ce qu'on appelait Anshe Knesset Agedola. Jusque-là, tout va bien. On avait d'ailleurs expliqué qu'ils avaient mis en place ces 18 brachot. Pourquoi 18? Pas seulement parce que c'est la gématria du mot Chai, mais parce qu'il y avait 18 fois marqué le nom de Dieu dans le schéma. C'est-à-dire dans notre relation à la Torah, à la Nevoa, eh bien Dieu dans le schéma se dévoile 18 fois et donc nous lui répondons par 18 brachot. Tout ça, c'est le Seder. Mais le problème, c'est que, eh bien, quand on regarde concrètement dans le Sidour, on voit que dans la Hamida, il n'y a pas 18 brachot, il y en a bel et bien 19. Ah bah oui. Que faire avec cette bracha 19? D'où vient-elle? Cette bracha 19, Birkat Aminim, que nous allons évoquer donc aujourd'hui, eh bien, Birkat Aminim a été rajoutée plus tard. Quand je dis plus tard, remettons les choses dans leur frise chronologique. Anshe Knesset Agedola, on parle des années... Allez, moins 350. Birkat Aminim va être mise en place aux alentours des années 130, 132. En d'autres termes, nous sommes près de 500 ans après la mise en place de la Shemoneh Esrei, on va rajouter Birkat Aminim. Nous sommes dans un contexte historique très particulier puisque la guerre de Bar Korva se profile. Les Romains sont de plus en plus intenables en Israël. La pression est terrible. Les rédifotes, les attaques romaines face à nous sont constantes. Et donc, on ne sait plus vraiment quoi faire. Dans ce pêle-mêle, eh bien, il y a des gens, des Juifs, qui décident de se détacher du peuple juif, qui décident de prêter main forte aux Romains. Ces Juifs qui décident de prêter main forte aux Romains, eh bien, on va les appeler minimes. Mais c'est minime. Minime, ça veut dire une autre sorte. Min, c'est une sorte. On a plusieurs minimes dans, les carottes. Donc, on a plusieurs sortes dans les carottes. Min, c'est une sorte. Et donc, en les appelant minimes, on veut dire ils sont un autre style. C'est plus de chez nous. Mais c'est qui ces gens-là? De qui parle-t-on? Eh bien, quand on regarde dans nos sidours, on dit la minime, la malchinim, altéitikva. Parce qu'ils ont été des délateurs et ils ont été prêtés main forte aux Romains, pas en prenant les armes, pas du tout, mais en dénonçant les Juifs et en disant aux Romains où les Juifs se cachaient. Ces minimes-là, on ne sait pas vraiment qui c'est dans nos sidourim à nous, mais on a retrouvé le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, qui a pris plus de 1000 ans. Et dans son sidour, qui n'a pas subi la censure chrétienne et la censure de l'histoire, eh bien, on retrouve dans la bracha de Birkat Aminim, le noussach d'origine, à savoir la minim, la notsrim, ve la meshumadim, al tiitikva. Et là, le mot notsrim ne nous laisse plus de doute. C'est qui ces minim? Eh bien, ce sont les premiers chrétiens. Eh oui, cette bracha est complètement tournée vers les premiers chrétiens. Et là, c'est important de dire quelque chose. Juste avant de rentrer dans le texte de la bracha, c'est important de rappeler quelque chose. Les premiers chrétiens ont été sortis du peuple juif, mais pas parce qu'ils pensaient que leur rabbi, c'était le Mashiach. Pas parce qu'ils avaient une compréhension erronée du judaïsme. Tant que tu as une compréhension erronée du judaïsme, ça va, raval, mais c'est pas pour ça qu'on va te sortir du peuple juif. Par contre, lorsque durant la guerre contre les Romains, tu commences à prêter main forte à l'ennemi, et tu deviens donc un ennemi toi-même au sein de ton propre peuple, à ce moment-là, eh bien effectivement, on dit non, on dit stop. Et il en va de même aujourd'hui. On peut avoir plein d'avis différents de comment on comprend le judaïsme. On peut être, sioniste, rabbin, dati leumi, pas-religieux, machin. Aucun problème. Mais lorsque tu vas commencer à décider de porter atteinte au clan Israël en prêtant main forte à ceux qui ouvertement en sont leurs ennemis, à ce moment-là, ça devient très compliqué, on va commencer à te sortir. Maintenant, vous comprenez bien que comment, dans les faits, on a sorti les chrétiens, les premiers, du peuple juif, Birkat Haminim a fait en sorte qu'ils n'allaient quand même pas s'auto-maudire. Et donc, ils ont arrêté de prier avec nous, ils se sont petit à petit séparés de nous. Parce qu'il faut bien comprendre que pendant les 100 premières années du christianisme, il était impossible de faire la différence au look entre un chrétien et un juif. Ils s'habillaient pareil, ils avaient tzitzit, la barbe, les péotes, ce que tu veux, ils allaient au Beth Amikdash jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit détruit. Et puis après, ils continuaient à vivre une vie juive, avec des idées erronées, mais de l'extérieur, on pouvait avoir une vie juive. Et ce n'est que donc Birkat Haminim qui nous a séparés. Mais ça ne répond pas à la première question qu'on a posée, à savoir, s'il faut être prophète pour décréter la Tefila, on a dit les derniers prophètes, c'était Anshei Knesset Hagdola, mais là, on est 500 ans plus tard. Qui va donc pouvoir se permettre de décréter Birkat Haminim? Eh bien, c'est cette question qui anime Rabban Gamliel, qui est le chef du Sanhédrin. Et Rabban Gamliel, chef du Sanhédrin, eh bien, dit la chose suivante. « Klum yesh bachem mi sheyechol letaken et Birkat Haminim ?» Quoi? N'y a-t-il personne, véritablement, qui serait capable de mettre en place cette bracha Birkat Haminim? Pourquoi il ne le fait pas lui? C'est lui le nasi, c'est lui le plus grand des rabbins, c'est lui le chef des rabbins. Non, semble-t-il qu'il comprend que ce n'est pas une question de grandeur de Torah, qu'il faut un petit truc en plus, que si tu ne l'as pas, eh ben, tu ne peux pas. Ce petit truc en plus, vous comprenez qu'est-ce que c'est? C'est justement les dernières bribes de la prophétie. Et c'est de cela qu'on parle. Il faut chercher qui au sein des Chachmé Israël est le dernier détenteur d'un petit truc, de prophétie. Qui va être celui qui va mettre en place la Birkat Haminim? Eh bien, c'est Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan. Pourquoi Shmuel HaKatan? Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est pas un nom, ça. Shmuel HaKatan, le petit Samuel. Eh bien, si. Il dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin qu'il s'appelle Shmuel HaKatan parce qu'il était Katan par rapport à Shmuel HaNavi, par rapport au prophète Samuel. Et on va même nous amener dans le traité de Sanhedrin les genre de prophétie qu'il a mis en place Shmuel HaKatan. En gros, Shmuel HaKatan était le dernier du dernier des derniers détenteurs de la petite flamèche de la prophétie. Et c'est pour ça que c'est lui qui a mis en place cette bracha. Le seul problème, c'est qu'on a une autre problématique par rapport à cette bracha en particulier. L'autre problématique, c'est quoi? Eh bien, c'est que cette bracha est une bracha de sina, est une bracha de dégage. C'est difficile. Comment mettre en place une bracha comme ça? Il faudrait quand même pas que dans cette bracha soit mis aussi, soit intégré dans la kavana bracha des gens qui n'ont rien à voir avec les minimes, mais c'est juste des gens que j'aime pas. Et c'est pour ça que Shmuel HaKatan remplit également ce rôle-là. Shmuel HaKatan est un homme qui vivait selon une règle. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Shmuel HaKatan Omer. C'est un enseignement donc de Shmuel HaKatan. Il dit Bin Pol Oivra al Tismach, Ubikashelo al Yagel Libera. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Alors là, moi, je dis tout de suite, je porte plainte. Je porte plainte contre Shmuel HaKatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce plagiat? Le Mishnah en Pirkei Avot nous dit Shmuel HaKatan Omer Bin Pol Oivra al Tismach. Mais enfin, ce n'est pas Shmuel HaKatan qui a dit ça, c'est le roi Salomon. C'est Shlomo HaMelech dans Michelet. C'est un verset de Michelet. Donc, qu'est-ce que tu me racontes que c'est Shmuel HaKatan? Non, bien sûr que c'est un verset de Michelet. Tout le monde le sait. Lorsqu'on te dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, lorsqu'on te dit « un tel Omer » ou « Aya Omer », ça veut dire « Ouaya Machéou Omer ». Il était complètement ce qu'il disait. En d'autres termes, Shmuel HaKatan Omer, c'est lui, c'est son truc. Et qu'est-ce qu'il est? Il est Binpol Yifra Altismar. Il est l'homme qui vit selon cette réalité qu'il ne se réjouit pas de la chute de son ennemi. Binpol Yifra Altismar. Ubikashelo Al Yagel Libera. Si tu es un homme qui vit très profondément le fait de ne pas être satisfait de la chute de ton ennemi, alors tu peux être celui qui va faire chuter ton ennemi. Tout ceci étant mis en place, eh bien voilà, Shmuel HaKatan est donc l'homme de la situation qui va pouvoir nous mettre en place cette beracha. Alors allons-y. Alors il y a plusieurs nousraot, évidemment. La malchinim, oh, la minim ve la malchinim. Oh, la malchinim al teitikva ve chol aminim kregay ovedu. Mais dans tous les sens, on parle de deux dimensions, de ceux qui se sont écartés et de ceux qui se sont mis à être des malchinim. Aujourd'hui, alakha lemaase, qu'est-ce que c'est qu'un min? À qui doit-on penser dans cette bracha? Est-ce qu'on a pensé aux chrétiens? À tous les chrétiens? Non. Non, 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 non. Aujourd'hui, alakha lemaase, la minim ve la malchinim, à qui doit-on penser? Eh bien, on doit penser à toute personne non-juive qui voudrait porter atteinte au peuple juif, soit dans les actions, soit dans ses pensées, dans ses annonces. Voilà, c'est ça la personne qui est visée par Bekat Aminim. Quelqu'un qui voudrait porter atteinte au peuple juif, tant dans ses actions que dans ses amirot. Donc, ce n'est pas forcément évidemment tous les chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens d'ailleurs du tout, qui sont totalement dans les minimes. Je pense que vous pouvez largement, mais alors largement, mettre le gouvernement actuel iranien dedans. Vous pouvez largement mettre pas mal de gens que vous connaissez dedans. Mais voilà. Donc ça, c'est au niveau de la halakha. Qu'est-ce que nous dit cette bracha? La malchinim al teitikva. Qu'il n'y ait aucun espoir pour ceux qui essayent de se faire du bien sur le dos des autres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. À ta malchine, tu es en train de faire du lashon hara sur quelqu'un parce que tu penses que ça va t'apporter quelque chose? Ah, si c'est comme ça, chez lo yelecha tikva. Vechol aminim kerega yovedu. Directement, qu'ils disparaissent. Kerega yovedu. On ne peut pas accepter que quelqu'un se prenne pour moi officiellement. De rien, David. Je ne sais pas pourquoi tu me remercies, mais en tout cas, de rien. Les amis, on ne peut pas prendre la place de l'autre. Pourquoi est-ce que notre rapport avec les minimes, avec les chrétiens, est si particulier? Par rapport à d'autres idolâtries, comme vous savez, le Rambam dit que le christianisme était considéré comme de l'idolâtrie. Mais pourquoi notre relation est tellement différente? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque tu viens au nom de l'idolâtrie, lorsque tu viens au nom de, Baal, alors tu viens et tu remplaces Yudke Vavke, Dieu, par Baal, Zélob et Sader. Mais tu viens pas te prononcer au nom de Hachem et en faisant n'importe quoi. Tu as dit, voilà, il y a une alternative à Dieu, c'est Baal. Mais les chrétiens, c'est autre chose. Ils viennent faire de l'idolâtrie au nom de Dieu. Genre, tu te prends pour moi. Et ça me permet de répondre à une question que vous vous êtes posée, que vous ne m'avez pas posée, mais que vous vous êtes posée, évidemment. Puisqu'on a dit, toujours dans notre idée, qu'on a rajouté une bracha tout à l'heure plus tard, si on a dit que la Shmoneh serait 18 brachot, c'était par rapport aux 18 fois où il y avait marqué le nom de Dieu dans les schémas. D'où est-ce qu'on va pouvoir rajouter la 19e? Eh bien, à cette question répond Rav Yosef dans la Gemara. Il dit, c'est par rapport au Echad de Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem, Echad. Or, maintenant tout est clair, parce que s'il s'agit des premiers chrétiens, du christianisme donc de base, eh bien le christianisme, comme vous le savez, a porté atteinte à quoi? Au Echad. ils ont pris Dieu, ils en ont fait trois. Donc par rapport au Echad, il y a Birkat Aminim. Donc, la Malchinim Alti Tikva, Vechol Aminim Kerega Yovedu. Vechol Oive Amecha Me'era Yikaretu. Que tous les ennemis de ton peuple soient déracinés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi Alakha Lema'ase? Les minimes, ceux qui sont les ennemis de ton peuple. Point. Ennemis, ça peut être par des actions, ça peut être par des mots. L'homéchané. Quand vous avez aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des attaques incessantes contre le peuple juif et contre Israël, alors que les gens, ils n'ont jamais rien fait qui soit répréhensible par la loi, par des actions, eh bien, ils rentrent quand même dans cette dimension de minime. Et donc, « V'chol oive amecha me'erai karetu, v'azedim shem mezid, ce qui le fait volontairement. » Mera te aker ou te shaber ou te maguer ou te chalem. C'est-à-dire quoi? On va vite les déraciner, d'accord? On va les briser, shaber, te maguer ou te chalem, les décimer complètement. Vetashpilem, vetachniem, bimera beamen. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de les calmer. Bien plus que de les voir disparaître, c'est de les voir comprendre que ce qu'ils ont fait est mauvais. Et c'est pour ça que c'est plus important de les voir nichnaïm, c'est-à-dire accepter finalement la véracité du judaïsme et comprendre que ce qu'ils ont fait c'est n'importe quoi, eh bien c'est mieux que de les voir disparaître. Comme avait expliqué Brouria à son mari, Rabbi Meir. À propos du Tehilim, lorsqu'il y avait marqué Yitamu Chataim Minaharetz Urshaim Odenam Barchi Nafshet Hashem Alléluia. Alors que Rabbi Meir voulait changer le verset de Tehilim en disant Yitamu Achotim, que les fauteurs disparaissent. Brouria lui dit mais pas du tout, on ne veut pas que les fauteurs disparaissent, on veut que les fautes disparaissent. On veut que le fauteur puisse faire tchouva. Donc Yitamu Chataim Velo Achotim Minaharetz. Donc, on veut ici qu'il y ait une knia de la part de ceux qui voudraient se faire passer pour nous. Tachniem bimera beyamenu. Baruch ata Hashem, shover oyevim umachania zedim. Ça, c'est pour la première partie. Shover oyevim umachania zedim, vous avez bien compris. Shover a oyevim, c'est le but. Et ceux qui ne sont que zedim, c'est-à-dire qu'ils font ça volontairement, mais qui n'ont pas forcément, sont pas encore forcément devenus des oivim, machniem. Et voilà, nous avons donc terminé la bracha de la malchinim, et comme a été décidé en haut lieu, nous allons scinder notre cours en deux. Nous avons fait maintenant près de 20 minutes sur la tefila, nous allons faire le reste du cours sur la Haggadah. Eh oui. Haggadah shel Pessah. Alors, voilà, vous pouvez changer de livre, vous pouvez changer de préparation. Là, c'était la tefila. On enchaînera la semaine prochaine sur Alat Tzadikim. Mais là, on ouvre la Haggadah de Pessah. Haggadah de Pessah, vous la connaissez, un texte extraordinaire. Texte extraordinaire qui, d'ailleurs, a été mis en place au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas en deux jours qu'on a mis en place la Haggadah de Pessah, pas du tout. C'est un codex qui a été complété au fur et à mesure des générations. Ça fait à peu près 1000 ans qu'on a le même texte et qui n'a pas bougé. OK ? Ce texte de la Haggadah, tout le texte de la Haggadah, a un seul objectif. Tout le texte de la Haggadah, c'est un grand coup de gueule. Tout l'objectif de la Haggadah, c'est de venir nous dire « Ani lo mistapek bamatzav anochéhi ». Je ne me satisfais pas de la situation actuelle. Je ne m'en satisfais pas. C'est-à-dire, je ne me satisfais pas d'une situation où il n'y a pas de Beth Amikdash et où je ne peux pas amener mon Korban Pessah. La Haggadah a été mise en place à une époque où, ça y est, il n'y a plus de Korban. Et toute la Haggadah tourne autour de cette réalité-là que c'est l'homme et c'est qu'il n'y ait plus de Corban. OK ? Et donc, si on regarde bien, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, eh bien, on va se rendre compte que tous les éléments qui forment la Haggadah sont là pour nous faire prendre conscience de cette réalité-là. Et donc, c'est pour ça que quand on ouvre, alors je ne sais pas comment ça marche chez vous, dans vos minagim, dans vos familles, mais nous, on commence avec une chanson. On va évoquer les simanim de la Haggadah. Et donc, dans ces simanim, eh bien, on dit « Kadesh uchatz karpas yachatz magid rartza motzi matza » Oui, je sais que vous êtes en train de chanter avec moi. « Maror korer shulchan orech tzafun barech alel nirtza » Et si vous avez bien compté avec moi, eh bien, nous retrouvons 15 éléments pour ce soir du Seder. 15 éléments. De Kadesh à Nirtza, 15 éléments. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Ratza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barer, Alel, Nirtza. 15 éléments pendant cette Haggadah de Pessah. C'est quoi 15? Pourquoi 15? Ah, on aurait pu en faire 29. Pourquoi 15? Vous savez, à la fin de la Haggadah, on a la fameuse chanson Echad mi Yodea. Et donc, on passe de 1 à 13 en passant en revue à quoi ça nous fait penser chaque chiffre. Là, vous savez très bien, Echad, Kadosh Baruch Hu, 2, Luchot Abrit, 3, Les Avot, 4, Imaot, 5, Chumshei Torah, 6, Sidrei Mishnah, 7, les jours de la semaine du Shabbat, les 8 jours de la Brit Mila, les 9 mois de la naissance, les 10 commandements, les 11 étoiles du rêve de Yosef, les 12 tribus, les 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruch. Alors maintenant, si je vous posais la question, alors viens, on continue. C'est quoi 15? La Haggadah a choisi de mettre 15 éléments. Là, Makara. C'est quoi ces 15 éléments de la Haggadah? Ben, chez l'Agdola. Eh bien, en fait, si on y réfléchit bien, il y a un 15 qui est directement lié au judaïsme. Eh oui. Alors, on a dit que tout était tourné vers le Beth Amikdash. Donc, c'est là-bas qu'il va falloir chercher. Et effectivement, quand on y réfléchit bien, eh bien, on se rend compte qu'il y a au Beth Amikdash 15 escaliers. 15 escaliers qui vont séparer la Ezrat Nashim de la Hazara, là où on va faire les korbanot. Ces 15 escaliers portent un nom. C'est quoi ces escaliers? Comment on dit un escalier en hébreu? Alors vous savez quoi? On va faire mieux. Comment on dit un ascenseur en hébreu? Un ascenseur en hébreu qui nous permet de monter les étages, on appelle ça un ma'alit. De la même façon, un escalier en hébreu, c'est une ma'ala. Les escaliers s'appellent des ma'alot. Il y en a 15. 15 ma'alot. Et on peut dire bonjour à ma fille. Dis bonjour, Syrah. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Yavi. Il y a donc 15 escaliers. 15 escaliers au Beth Amikdash qui nous permettent de monter de la Ezrat Nashim jusqu'à la Hazara des Korbanot. Ces 15 escaliers... C'était les escaliers dans lesquels les 15 Shir HaMa'alot. Et oui, car dans Tehilim, il y a 15 Tehilim qui commencent par les mots que vous connaissez très bien, Shir HaMa'alot. 15 Shir HaMa'alot, correspondant aux 15 escaliers, les Lévi'im les chantaient tous les jours et montaient d'escalier en escalier. Les 15 Shir HaMa'alot, Rabotai. En d'autres termes, on ouvre la Haggadah avec cette prise de conscience que je suis rattaché au Beth Amikdash. Je veux passer moi aussi ces ma'alot pour monter petit à petit dans les soulamot à Kodesh. Tu peux aller fermer la porte. Ferme la porte. Non, ferme bien, bien, bien. Yofi. Et donc, c'est comme ça qu'on ouvre la Haggadah, en prenant bien conscience que l'objectif est de retourner à ces ma'alot-là, de retourner au Beth Amikdash. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Kadesh. Haggadah commence avec Kadesh. le kiddush. Et là, vous allez me dire, oui, bon, bah, le kiddush, t'as pas grand chose à dire, puisque ce n'est pas quelque chose qui est propre à la kiddush. Bien sûr, vous avez raison. Dans chaque fête, on fait le kiddush. Aval, la Haggadah, Pessah, c'est la première fête. C'est la base de toutes les autres fêtes. Donc oui, je parle de Pessah en tant que kiddush, parce que si on n'en parle pas maintenant, à quoi est-ce qu'on va en parler? On a même fait Pessah avant de faire Shabbat. Eh oui! Et donc la dimension de kiddush, c'est Dafka Pessah. Donc il faut qu'on en parle deux secondes. L'objectif du kiddush, c'est quoi? C'est d'apporter la kedusha, Rabotai. La kedusha. Lorsqu'on a lu dans la paracha de Teruma, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Rashi nous a dit Asuli Bait Shel Kedusha. En fait, la kedusha, c'est le moyen de rencontrer Dieu. D'où je le sors? Eh bien, il y a tout simplement marqué dans la Torah, parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Et dans cette même parasha, on va nous parler de notre relation avec Dieu. Et Dieu nous dira, Veitalarti betochechem, atayel imachem, dira Rashi. En d'autres termes, akidush, akedusha, c'est le moyen d'être en contact direct, en lien ininterrompu avec Akadosh Baruch. En gros, en français, on dirait que arriver à cette dimension de Kedusha, c'est arriver à une rencontre avec le Créateur. C'est éphémère, une rencontre avec Dieu, ou c'est pas tous les jours. Non seulement c'est pas tous les jours, mais attendez, on va pas s'en tirer comme ça. Pour avoir une rencontre entre vous et moi, idée. Là, nous sommes en live sur Internet et on étudie la Torah. Mais est-ce qu'on se rencontre? Pas vraiment. Alors vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Et même dans certaines autres applications, téléphones, vidéoconférences, c'est-à-dire on se voit, mais zélo-zé. Quand vous voulez faire une rencontre avec votre mari, votre femme, il faut trois éléments. Il faut trois éléments pour qu'on parle d'une véritable rencontre. Le premier élément, évidemment, bah, les deux identités qui veulent se rencontrer. Si j'ai pas ma femme, je vais pas pouvoir rencontrer qui que ce soit. Donc d'abord, il faut les deux identités. Là, en l'occurrence, Knesset Israël, Vekutcha Berichu. Am Israël, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu. Les deux identités qui veulent se rencontrer. Mais Tsuyan, seulement ça ne suffit pas. Pour se rencontrer, il va falloir également deux autres éléments. Premier, le timing de la rencontre. Et troisième élément, l'endroit de la rencontre. Une rencontre en hébreu, une date en anglais, ça se dit une bgisha en hébreu moderne, évidemment, mais en hébreu du Tanakh, ça se dit moed. Moed, ça vient du verbe leivaed, se rencontrer. Va'ad bait, l'association de copropriété. En d'autres termes, moed, c'est une rencontre. Et qu'est-ce qui s'appelle moed dans la Torah? Les fêtes. Pessah en premier lieu. Ce sont des moadim, des temps de rencontre avec Dieu. Mais comme on a dit que ça ne suffisait pas, eh bien, il y a un autre truc qui s'appelle moed dans la Torah qui s'appelle Oel Moed. Le Mikdash s'appelle moed. En d'autres termes, lorsque nous ouvrons la fête de Pessah avec le Kiddush, on vient dire on veut faire la Kedusha. Mais pour ça, on a compris que pour être Kadosh, rencontrer Dieu, être en contact direct avec lui, on a non seulement besoin de ce moment-là, qui s'appelle Pessah, bien sûr. Si vous faites le Kiddush de Pessah quand ce n'est pas Pessah, c'est Avera. Mais on a également la demande express que ce Kiddush soit fait à Jérusalem, au Beth Amikdash. Bezrat Hashem cette année déjà, on aura terminé le confinement et on pourra aller faire Pessah au Beth Amikdash. Et si ce n'est pas cette semaine, cette année, ce sera l'année prochaine. Mais il est évident que l'idéal de Pessah doit être fait au Beth Amikdash. C'est Bidyuk Einyan. Kadesh vient nous annoncer qu'on a envie de cette rencontre-là. Asya Femeod, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on arrive à Ukhatz. Ukhatz, on se lave les mains. Alors, je ne sais pas, au niveau des minagim, chacun il fera le minag qu'il veut. Est-ce que c'est le père de famille? Est-ce que c'est tous les membres de la famille? Est-ce que c'est que les hommes? Ah, Mashané, l'idée reste la même. Pourquoi on se lave les mains? On va se relaver les mains après, lorsqu'on va, juste avant de manger le pain. Et pourquoi on se lave les mains là maintenant? Maketa, comme on dit. Eh bien, tout simplement parce qu'on va tremper le céleri, le carpas, dans l'eau salée. Tremper le carpas dans l'eau salée, ça dort. Pourquoi est-ce que ça nous demande une nécessité de nous laver les mains? Eh bien, tout simplement parce que d'après la halakha, eh bien, d'après la halakha, Shulchan Aruch, tout ce qu'on va tremper dans un liquide, on doit faire Netilat Yadayim d'abord. Tiens donc. Mais pourquoi ça? Bah parce que lorsqu'on le trempe dans un liquide, eh bien, il devient, le liquide a été, on va dire, le permet à recevoir la Touma, l'impureté. Et donc, bah, Chas v'Shalom, si jamais lui, il voulait, il était pur, il était prêt à être en train de manger un corban, et maintenant il va toucher quelque chose de pas pur, machin. Donc non, ça ne marche pas. Mais sauf que vous avez compris dans ce que je suis en train de vous dire, que quand est-ce que c'est important de devoir bien se faire un Netilat Yadayim avant chaque chose, eh bien, qu'on va manger. Eh bien, c'est uniquement quand on a un korban à manger. La preuve, c'est que le Shulchan Aruch a dit que c'était obligatoire de se laver les mains avant de manger quelque chose qui est mouillé. Mais le Chaya Adam dit, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Vous n'avez pas pris l'habitude, à chaque fois que vous trempez votre croissant, votre gâteau dans le café, de faire un Netilat Yadayim d'abord, ou de faire un Netilat Yadayim avant de manger une pomme que je viens de laver. Parce que c'était trop dur, pendant tout le temps de l'exil, de s'habituer à manger des choses qui est illou, genre on va manger un korban, et on ne mange jamais de korban. Alors, on l'a gardé pour le pain, parce que le pain, c'est la base de notre alimentation. Mais ce soir, à Pessah, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à remanger le korban. Donc, on est prêt, cette fois, à ce que tu nous redonnes ben, la possibilité de le faire. Et c'est pour ça qu'on est prêt à se faire une Netilat Yadayim. Mesdames, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'un point de départ à notre étude sur la Haggadah. On va évidemment continuer à en dire plus. Mais là, vous êtes en train de vous poser une question très importante, à savoir, mais pourquoi se prépare-t-il à arrêter le cours alors qu'on a étudié depuis uniquement 33 minutes? Eh bien, c'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. C'est uniquement pour un problème technique. Parce que je dois vérifier ça aujourd'hui, mais jusqu'à présent, dès que j'ai fait ce système-là, je ne sais pas pourquoi, une raison qui m'échappe encore, la vidéo s'arrête au bout de 34 minutes. Je ne sais pas si c'est un truc machin, donc je dois vérifier ça aujourd'hui, ce qui fait que la prochaine fois, on pourra faire une vraie vidéo d'une heure, un vrai cours comme il faut d'une heure. Là, vu que ça va s'arrêter dans 45 secondes, alors je préfère vous le dire clairement pour que vous ne soyez pas surprise. C'était la première fois qu'on fait ce cours par écran interposé, que ça ne devienne pas une habitude. On suit les remarques et les directives du Misra d'Abriout, mais il est évident qu'étudier la Torah, c'est mieux quand on se voit, c'est mieux quand on est tous ensemble. Donc, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on sera déjà sorti du confinement, sinon la semaine d'après, et j'espère vous retrouver très très vite, et surtout, pour le moment, faites attention à vous, mesdames, soyez en bonne santé, kiffez, et Shiyeh Shabbat Shalom, les Kulam, et on se retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt les filles.